C'est quelque chose de merveilleux de ce que tout de nouveau, nous pouvons louer la grâce de Dieu. Oui, et je crois que nous voulons le faire jusqu'à qu'il revienne nous prendre. Et là-bas, avec tous les rachetés, nous pourrons entendre des cantiques de louange, que son nom soit loué. Avant la prière, je voudrais lire dans le psaume 103 plusieurs versets. Nous voulons nous lever pour le faire et ensuite, nous voulons tout de suite prier ensemble. Après, mon âme loue l'Éternel. Psaume 103, verset 1. L'Éternel. Donc, mon âme loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Loue l'Éternel, mon âme, et n'oublie pas les bienfaits qu'il t'a faits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies, qui sauve ta vie de la perdition, qui te couronne de grâce et de miséricorde. Jusqu'ici, cette parole de Dieu. Prions. Seigneur bien-aimé, nous te remercions de tout notre cœur nouvellement et voulons t'apporter la louange et l'honneur. Que tout ce qui est en moi loue ton Saint-Nom. Mais pas seulement moi, mais nous tous. Nous voulons de la profondeur de notre cœur louer ton Saint-Nom, honorer ton Saint-Nom, car tu nous as accueillis. Seigneur, nous te remercions et nous te louons. Nous ne pouvons pas oublier ce que tu as fait de bien en nous, en notre âme, comme ce psalmiste l'a exprimé. Que du bien, que de la bonté. Tu nous as prouvé que de l'amour jusqu'à cette heure. Loué sois-tu, remercié sois-tu de ce que tu nous as sauvés des fautes. Tu nous as rachetés des transgressions, de la mort et du péché. Et tu nous as accordé ta vie. Loué et exalté sois-tu. Seigneur, nous te demandons que tu puisses être aussi avec nous cet après-midi. Oins mon frère nouvellement, accorde-lui ta parole et accorde-nous aussi ta parole pour que nos cœurs soient ouverts pour ce qui sera dit, ce qui vient de ta parole. Car nous savons que tout le reste est que du sable mouvant. Mais ce que tu nous dis de ta parole, cela reste valable éternellement jusqu'à dans toute éternité. Reçois et ôte tout qui pourrait déranger en nous. Ôte ce qui ne vient pas de toi, de ma vie, de notre vie. Ôte tout de nos cœurs, de nos pensées. Et accorde-nous un cœur qui est prêt à recevoir. Adoration et honneur soit à ton Saint-Nom de Jésus. À ton Saint-Nom Jésus. Amen. Nous nous asseyons. Loué soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir être de nouveau ici. Cet après-midi, je vais être obligé de obligatoirement un peu retenir ma voix. Mais je l'ai déjà dit souvent, ce n'est pas la haute voix avec laquelle nous soulignons et certaines choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui révèle la parole et qui nous conduit dans les profondeurs, dans les vérités profondes de la parole de Dieu. Parce que c'est ainsi, alors nous voulons laisser la parole nous parler. Et le reste, Dieu lui-même le fera. Vous savez, dans de tels jours, il y a plusieurs choses que j'apprends et je vois de quelle manière des épreuves de toutes sortes viennent sur l'un et l'autre, parmi le peuple de Dieu et parfois aussi que parmi les croyants, ce n'est pas toujours le soleil qui brille, mais que parfois même il y a des problèmes et certaines choses entre les croyants et cela m'attriste beaucoup. Le point doit vraiment arriver. L'heure doit arriver où vraiment parmi les vrais croyants, vraiment tous sont un seul cœur et une seule âme, où toutes les incompréhensions ont été éliminées, où le cœur est purifié. Et comme notre Seigneur lui-même disait sur le sermon de la montagne, dans le sermon sur la montagne, bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans une autre écriture, nous lisons que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées, qui ensuite deviennent des mauvaises actions. Des mauvaises actions. Mais d'abord, c'était des pensées. Donc, mais si Dieu nous a donné vraiment un nouveau cœur et une nouvelle vie, et que vraiment il nous avait fait grâce, comme nous l'avons lu dans le psaume, et qu'il nous a accordé toutes ces choses, alors il faut que ces choses-là soient manifestées par notre vie, dans notre vie. Les choses ne peuvent pas rester vieilles si nous avons été régénérés, renouvelés. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, tout est devenu nouveau. Et cela vient de Dieu. Si tout n'est pas devenu nouveau, ça veut dire que nous ne sommes pas encore devenus de nouvelles créatures. Alors ça veut dire que nous n'avons pas encore expérimenté réellement la nouvelle naissance. Il y a des attaques qui viennent de l'extérieur. Et ça, je ne suis pas en train de parler de ça maintenant. Cela sera le cas jusqu'à la fin pour chacun de nous. Mais c'est une grande différence. Est-ce que le mal vient de l'extérieur vers nous, ou bien alors est-ce que le mal vient de notre cœur? Ça, c'est une très grande différence. Et j'espère que ces jours ne servent pas seulement à ce que nous soyons introduits plus profondément dans la parole de Dieu, mais que nous soyons immergés nouvellement dans la grâce de Dieu et avoir été rapprochés de Dieu pour l'expérimenter nouvellement, personnellement. J'ai plusieurs écritures, plusieurs passages que je me suis noté du livre Les Sceaux, dans l'espérance que nous allons les lire, dans l'espérance que Dieu nous bénisse et qu'il est avec nous. Et je crois qu'il nous bénira et il sera avec nous. Car nous venons ici pour un seul objectif et une seule raison, c'est pour être préparés pour la gloire et ensuite rencontrer l'époux et pouvoir rencontrer l'époux de notre âme, de nos âmes. Avant de lire dans le livre Les Sceaux, je voudrais lire une sainte et précieuse parole de Dieu d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 25. Cela est aussi adressé à nous. Cette parole est aussi adressée de nous. Quoique ce soit une parole très correctrice, donc qui corrige, qui reprend. Verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et dites la vérité chacun à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous êtes en colère, ne péchez pas par là. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez point accès au calomniateur, le diable. Désormais que le voleur ne dérobe plus, mais qu'il travaille avec zèle, acquérant de ses mains ce qui est bon, afin de pouvoir subsister aux besoins des nécessiteux. Qu'il ne sorte de vos bouches aucun discours grossier, vain ou indécent, mais seulement ce qui est propre à l'édification, là où c'est nécessaire, afin que cela apporte la bénédiction à ceux qui l'entendent. Nous voulons très particulièrement nous remarquer ce verset 29. Que de nos bouches sorte seulement ce qui apporte la bénédiction aux autres. Ici, il est écrit Mais que ce soit des paroles, seulement ce qui est propre à l'édification, là où c'est nécessaire, afin que cela apporte la bénédiction à ceux qui l'entendent. Que ce soit qu'il y en a 3 qui l'écoutent, ou bien 30 qui écoutent, ou bien 300 qui écoutent, ou bien 3000 qui l'écoutent, ça n'a aucune importance du nombre. Si nous disons quelque chose, que cela apporte la bénédiction à ceux qui nous écoutent. Et ensuite, il est écrit, « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Que toute amertume, toute colère, animosité, toute rancœur, tout cri et toute injure, calomnie, soit retiré du milieu de vous. Même toute malice et toute espèce de nature méchante. Faites plutôt preuve de bonté et de cœur les uns envers les autres en vous pardonnant mutuellement comme Dieu en Christ vous a pardonné. Ça, c'est aussi la parole de Dieu. Et nous devons recevoir cela dans notre cœur. Accepter cela. Si nous voulons faire partie de cette troupe, appartenir à cette troupe qui n'a pas seulement reçu la vie éternelle, mais qui veut avoir part à la première résurrection, nous avons reconnu clairement la différence. Il y a une église et il y a donc une épouse parmi l'église. Donc, les 7 lettres aux églises ont individuellement été adressées à l'église dans chaque âge. Mais la promesse est seulement aux vainqueurs, adressée aux vainqueurs, à ceux qui, dans chaque âge de l'église, par la parole, à cause de la parole qu'ils ont écoutée et à cause du sang par lequel ils ont été rachetés, ont vaincu. Et ensuite, pour être auprès du Seigneur ensuite, après avoir vaincu. Donc, la troupe des vainqueurs est la troupe des prémices qui prendra part ensuite au festin des noces de l'agneau. Notre devoir n'est pas seulement de préparer des hommes pour le jugement dernier, pour qu'ils puissent ensuite entrer dans la vie éternelle. Notre devoir, et cela sans être présomptueux, est de préparer plutôt des hommes pour l'enlèvement en fixant nos regards vers la première résurrection pour ensuite, ou bien alors à la première résurrection, pour ensuite être auprès du Seigneur. C'est peut-être avant que la mesure, les mesures doivent être plus resserrées et restreintes et nous ne disons pas seulement cela en regardant seulement à d'autres assemblées. Non, nous regardons à nous. Dieu peut avoir permis certaines choses jusqu'à maintenant, mais maintenant, il ne laisse plus passer quelque chose. Il est prêt à nous sanctifier, purifier et préparer. Et quand nous entendons parler des 7 sceaux, quand nous les lisons et que nous nous approfondissons dans ces choses, nous devons à chaque fois, nouvellement, comprendre quelle grâce inexprimable c'est de ce que justement à nous il a été donné ce privilège là d'entendre toutes ces choses que Dieu dans nos jours a fait, et encore plus que cela il nous a accordé la grâce de rester demeurer sobre et normal et clair malgré les grandes révélations que Dieu nous accordait. Nous sommes profondément courbés et sommes très reconnaissants, Seigneur, pour cela. Ce qui me plaît beaucoup en frère Branham comme homme, c'est qu'il a ouvertement parlé de son côté humain. Il n'a pas couvert. mais il en a ouvertement parlé, il a ouvertement montré, il a été honnête et sincère. Je vais vous lire quelque chose pour donner un exemple du livre Les Sceaux à la page 14 en haut. Déclaration. J'espère que les gens ici sont spirituels. J'aurais commis une terrible erreur si le Saint-Esprit n'était pas entré dans la pièce vers 12 heures aujourd'hui. Aujourd'hui, et ne m'avait pas corrigé dans une pensée que je voulais écrire pour en parler. Frère Branham était en train d'écrire quelque chose et subitement, l'Esprit de Dieu vient dans la pièce. Vous savez que quand Frère Branham dit que l'Esprit de Dieu est maintenant là ou bien là-bas ou bien ici, alors il veut toujours parler de la présence surnaturelle de Dieu, la lumière, la colonne de feu, qu'il pouvait voir avec ses yeux naturels et pouvait entendre acoustiquement la voix audible. Ici, il dit, je l'ai pris d'un vieux commentaire, je n'ai eu aucune révélation à ce sujet. Donc, Frère Branham voulait écrire une pensée qu'il avait lu dans un vieux commentaire que un certain soi-disant docteur de la Bible avait écrit. Et quand il était en train de vouloir écrire ce commentaire, l'Esprit de Dieu est rentré dans la pièce et l'a stoppé, l'a corrigé et lui a donné ensuite la bonne révélation. Frère Branham aurait pu sauter ce détail et parler seulement de la révélation. Il aurait pu même nous cacher ça. Mais il était un homme honnête, sincère, véritable. Il était aussi qu'un homme, comme nous le sommes tous. Il aurait pu, sans même en parler, et mentionner qu'il avait été corrigé. Non, mais nous faisons la même chose ici. Nous devons être prêts à abandonner tout ce que nous avons estimé bon, mais qui n'est pas en accord avec la révélation que Dieu a donnée dans cette génération. Nous devons être prêts à mettre ces choses de côté. Toutes ces connaissances, nous devons avoir le courage d'avouer que nous n'avions pas su tout et qu'il y a des choses que nous avons reprises des autres, que d'autres ont prêchées. Mais nous sommes prêts à mettre tout de côté et ce que Dieu a dit et a révélé, l'accepter et le recevoir dans notre cœur, et rien d'autre. Frère Branham continue ici. Mais ensuite, vers 12 heures, le Saint-Esprit est descendu dans la pièce et tout m'a été, et toute la chose m'a été révélée. Alors, c'est ainsi que le premier sceau a été ouvert. Pas un homme, mais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit a parlé, a révélé, a montré, a éclairci, expliqué. Et ensuite, pour pouvoir dire ce qui devait être dit de la part de Dieu. Ensuite, il le dit ici, aussi vrai que je me tiens ici, je suis fermement convaincu que ce que je vais vous montrer ce soir est la vérité de l'Évangile. Je sais juste que ça l'est. Parce que si une révélation est contraire à la parole, ce n'est pas une révélation. À ça, nous pouvons dire tous oui et amen. Une révélation qui est contraire à la parole de Dieu, même si cela est nommé une révélation, ce n'est pas une révélation. Et c'est ainsi qu'elle n'a pas de valeur. Bien au contraire, elle peut que égarer les hommes. Je pense là à cette fondatrice, la Fraser, qui a, n'est-ce pas, fondé l'église en Afrique du Sud, appelée la pluie de l'arrière-saison. Elle a réussi à expliquer à son prophète que Matthieu 28 lui a été spécialement révélé par Dieu, c'est-à-dire que les hommes doivent être baptisés trois fois par immersion, trois fois. Et ils ont avalé cela jusqu'à aujourd'hui encore. Et ce mouvement, c'était celui-ci justement, là, qui avait fait cet ultimatum à Frère Branham qu'il puisse accepter cette révélation. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, peut faire ça, peut dire oui à une chose que Dieu a condamnée? Où irions-nous que cela soit loin? Mais, vous voyez, comment est-ce que les hommes peuvent désigner quelque chose de rêve, peuvent parler de révélation? Des églises entières, des dénominations entières sont bâties sur ces soi-disant révélations. L'erreur n'est pas seulement à Rome ou bien au Vatican. L'erreur est dans toutes les églises protestantes et églises libres, jusqu'à même la dernière communauté qui existe. Et nous devons avouer que tous, nous étions dans la même erreur. Nous ne sommes pas en train de nous élever ici sur les hommes, sur les autres. Nous l'avouons nous-mêmes que Dieu nous a fait grâce de nous laisser corriger. Cela me fortifie énormément de savoir que ici nous avons un absolu, une parole de Dieu, des révélations de Dieu manifestées par, révélées par le Saint-Esprit pour notre enseignement et pour notre introduction, insération dans la parole et dans la volonté de Dieu. Ensuite, il est dit ici, vous savez qu'il y a des choses qui peuvent sembler si parfaites et pourtant ne pas être vraies. Elles n'ont que l'apparence, mais elles ne sont rien du tout. Combien des hommes peuvent même croire que ce qu'ils ont est vrai, est authentique, est clair, est pur, est juste, est selon les Écritures. Et c'est ni vrai, ni clair, ni selon les Écritures. Mais ils font que le croire, que c'est ainsi. Et nous pourrions ici citer encore d'autres fondateurs, que ce soit Russell, ou bien Joseph Smith, ou bien d'autres, Ellen White. Tous avaient des révélations. Et toutes ces révélations-là sont passées à côté de la parole de Dieu, mais ou sont passés outre. Mais aujourd'hui encore, les gens sont attachés à ça. Au lieu de dire c'était faux, ils font qu'interpréter la chose spirituellement pour de nouveau, pour pouvoir continuer dans leur erreur, mais d'une erreur à une autre. Il n'y a qu'une seule possibilité de passer dans la vérité, et cela de vérité en vérité, dans la vérité, c'est de sortir de l'erreur. Nous n'avons rien à perdre. Nous ne nous blâmons pas par cela. Et même si ce serait le cas, qu'est-ce que ça fait? Ce qui est important, c'est que Dieu, lui, dans le jour du salut, nous a secouru. Au jour favorable, nous a ouvert l'oreille pour que nous puissions entendre et écouter comme des disciples écoutent. Encore, il est dit ici, dernier paragraphe en bas à la page 14. Maintenant, si je le reçois par révélation, si je reçois quelque chose par révélation, je vous le donnerai ainsi, tel que je l'ai reçu. Mais si je ne l'ai que par mon propre esprit, je vous le dirai avant d'en parler. Si cela vient de mon opinion, de ce que je ressens. Regardez comment est-ce que cet homme est sincère et honnête, comme Paul, dans 1 Corinthiens 7. Si ce n'était pas une parole du Seigneur, ainsi dit le Seigneur, Paul dit, ici, je vous exprime mon opinion comme quelqu'un qui a trouvé grâce devant Dieu et qui a le Saint-Esprit. Mais quand c'était une révélation, c'était ainsi dit le Seigneur, alors Paul pouvait dire, ça, ce n'est pas moi qui le dis, non, mais ça, c'est le Seigneur qui le dit. Et déjà, tous savaient à quoi s'en tenir, avec la même clarté et la même honnêteté. Frère Branham a parlé, Et aussi, nous avons ensuite à discerner où est révélation et où est-ce que c'est Dieu qui parle, et où est-ce que c'est Dieu qui révèle, qui agit, et où est-ce qu'il nous conduit dans sa parole, et où est-ce que c'est Frère Branham qui a parlé dans une prédication et a traité des choses qu'il avait peut-être déjà traitées il y a des années passées, avant les sauts. Donc, il dit ici, mais alors que je me tiens ici ce soir, aussi vrai que je me tiens ici ce soir, je dis aujourd'hui que j'ai reçu cela fraîchement du Tout-Puissant. Cela s'entend bien. Ça, c'est merveilleux. Aussi vrai que je me tiens ici ce soir, je dis que je l'ai reçu ce jour fraîchement du Tout-Puissant. Aujourd'hui, fraîchement du Tout-Puissant. Auparavant, il voulait écrire quelque chose que quelqu'un avait dit dans un commentaire, un vieux commentaire, mais il témoigne, mais que ce que je vous dis ici ce soir, ça, je l'ai reçu aujourd'hui, fraîchement, pas hier, mais aujourd'hui, fraîchement. Il donne même l'heure, vers 12 heures, aujourd'hui, fraîchement, du Tout-Puissant. Remercier soit notre Dieu pour cela, de ce que il a eu un tel prophète. Un homme de Dieu qui ne portait pas ses révélations-là dans la poche de sa veste, mais qui attendait jusqu'à que ces choses lui ont été accordées par le Seigneur. Allons à la page 20 de nouveau pour continuer à lire. Dans le premier saut, à la page 20, à peu près au milieu de la page, page 20 en allemand. Comment un homme peut-il dire que l'épouse du Christ va entrer dans la tribulation? Je ne peux pas le comprendre. Elle est enlevée, elle sera enlevée avant la tribulation. Elle est enlevée avant la tribulation, lorsque l'Église a été jugée. C'est-à-dire, lorsqu'elle s'est jugée elle-même et a accepté le sang, comment Dieu peut-il encore juger une personne qui est parfaite et totalement sans péché? Ça, c'est une déclaration puissante. Comment est-ce que Dieu peut juger une église qui est parfaite et totalement sans péché? Alors nous dirions, mais peut-être cette personne n'existe pas. C'est pas possible. Nous regardons à notre vie et nous trouvons assez d'erreurs. Mais Dieu ne trouve plus d'erreurs en nous. Dieu ne voit plus ça. Car le sang, le sacrifice parfait a été offert et pour nous apporter un salut parfait, un pardon parfait par la grâce de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit et que Dieu doit inonder, que Dieu puisse inonder nos cœurs avec cette vérité révélée pour que nous ne soyons pas en train toute notre vie de travailler à notre salut. Et jusqu'à même sur le lit de la mort, encore ne pas être sauvé. Mais que nous puissions comprendre ce que les Saintes Écritures disent. Celui qui invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. C'est un plein salut. Une rédemption parfaite qui, sans tache, sans ride irréprochable, sans péché irréprochable, devant la face de Dieu, place une église. Sans tache, sans ride irréprochable. Sans condamnation. Nous pouvons seulement avoir l'une des deux. Ou alors nous croyons ce que l'ennemi nous chuchote dans l'oreille. et nous montre ceci, nos oreilles, nos erreurs, etc. Ou bien alors, nous regardons au Seigneur, nous regardons au crucifié, nous regardons à celui qui a versé son Saint-Sang pour nous et qui a accompli pour apporter une rédemption parfaite. Et c'est de cette rédemption parfaite accomplie que une église parfaite doit sortir. Du parfait ne peut que sortir quelque chose de parfait et de Dieu peut que sortir quelque chose de divin. Ça, nous devons le croire une fois pour toutes. Pouvoir le croire une fois pour toutes. Et ensuite, alors nous serons aidés et secourus. Alors, nous nous regardons par le sang de Christ comme Dieu lui-même nous voit par la grâce de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut juger un homme qui est parfait, qui est totalement sans péché? Ça, c'est la justification totale divine dans ta vie et dans ma vie. Pas seulement des péchés pardonnés en partie, mais toutes nos fautes, toutes nos transgressions ont été pardonnées. Et même la lettre de condamnation a été effacée, éliminée. Et si l'ennemi nous en montre encore une, c'est une falsification. Car nous sommes sans péché aux yeux de Dieu. Je vais vous lire cela encore. Vous pouvez dire, cette personne n'existe pas. Sans péché. La réponse est la suivante. Déclaration du frère Branham. Tout croyant né de nouveau, tout vrai croyant est parfait. A totalement sans péché devant Dieu. Ça, c'est la rédemption. Ça, c'est le rachat, le plein salut. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et nous nous efforçons jusqu'à ce que nous ne pouvions plus, nous ne pouvons plus. Et ensuite, et à comment ça continue? Alors nous attendons, au lieu de croire et de rentrer dans le repos de Dieu, nous attendons jusqu'à ce que nous ayons reçu de nouvelles forces pour de nouveau encore essayer de nous-mêmes à nous sauver. Non. La vraie foi se repose. Entre dans le repos en Dieu. Car pour le peuple de Dieu, il y a un repos, un absolu repos qui a été accordé. Et ce repos est encore présent et nous avons la grâce d'y entrer. Je continue à lire. Il ne se fie pas à ses œuvres, mais au sang de Jésus sur lequel repose sa confession. Notre confession ne se repose pas dans notre capacité, dans ce que nous nous donnons comme intention et de nouveau enregistrons des défaites. Non, notre assurance se repose dans le Dieu vivant, tout-puissant, dans le sacrifice parfait, dans le sang pur et saint qui a coulé. La Bible le dit ainsi, déclaration. Quiconque est né de Dieu, ne pêche pas, car il ne peut pas pécher. 1 Jean 3, du verset 4 jusqu'au verset 10. Comment pouvez-vous faire d'un homme un pécheur alors que la blancheur du sang de Jésus-Christ se trouve entre lui et Dieu? Cela lavera le péché jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Comment le sang pur du Christ peut-il laisser un quelconque péché derrière lui? C'est impossible. Oui, ça pourrait nous réjouir, n'est-ce pas, à tous. Qu'est-ce que c'était l'un de notre poète ou bien componiste qui disait, si les rachetés pouvaient ressembler à des rachetés, alors lui aussi, il pourrait croire à leur rachat. Et cela semble avoir beaucoup de vérité à l'intérieur. Nous sommes toujours en train de nous plaindre et nous avons nos problèmes que nous mentionnons et nos difficultés. Et nous apportons l'opprobre sous le nom du Seigneur par notre incrédulité et par laquelle nous nous laissons affliger et asservir au lieu de savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été ravis dans la liberté des enfants de Dieu, selon la parole des Écritures, que il nous a pris du domaine des ténèbres et nous a ravis dans le royaume de son Fils bien-aimé. Pas qu'il le fera, mais il l'a fait. Colossiens 1, verset 13. Je lis encore la dernière partie. Comment le sang pur du Christ peut-il laisser un quelconque péché derrière lui? C'est impossible. Jésus a dit, vous serez parfait comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Comment pourrions-nous penser être parfait? Je me pose aussi cette question. Mais Jésus l'exige. Et si Jésus l'exige, il doit aussi en faire, en créer un moyen, en créer un moyen. Et il l'a fait par son propre sang. Et si nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, nous lirions dans l'Épître aux Hébreux de ce nouveau chemin inauguré, qu'il a inauguré par l'offrande de sa chair, de son corps, au travers du voile, et il est entré dans le sanctuaire céleste pour apporter sur le trône de la grâce son sang. Ici, frère Branham a posé la question, comment quelqu'un pourrait penser être parfait? Et ensuite, la réponse suit, que nous le sommes devenus par celui qui était parfait. Et que nous avons été rendus irréprochables par celui qui était irréprochable. Que nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, par lui qui, comme fils de Dieu, a été manifesté. Tout a eu lieu par lui. Nous voulons aller à la page 23, en haut à droite. Page 23, à droite en haut. Mais la véritable épouse sera composée de milliers et de milliers de personnes qui sont les élus de chaque âge de l'Église. Chaque fois qu'un message a été diffusé, a été apporté et que le peuple y a cru et l'a accepté dans tout sa lumière qui lui, dans toute la lumière qui lui était donnée, le peuple donc a été scellé pour le jour de la rédemption. Tous ceux qui ont cru, dans chaque âge. Oh, ça c'est aussi une parole puissante. Dans chacun des âges, des sept âges de l'Église, Dieu a fait en sorte qu'un message particulier de la parole de Dieu fut prêché. Dans chaque âge. Et tous ceux qui, dans leur temps, croyaient au message et l'avaient accepté dans la lumière, dans laquelle Dieu l'avait donné et l'avait laissé apporter, ceux-là furent scellés du Saint-Esprit. Ils ont donné raison à Dieu. Ils ont respecté dans leur âge la parole de Dieu. Ils n'ont pas contesté et contredit Dieu, mais ils se sont laissés bénis par Dieu et par son message. À chaque fois qu'un message était apporté et que les hommes le croyaient et l'acceptaient dans toute la lumière qui lui était donnée, telle qu'il a été donné, ils ont été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons déjà ici parlé de ça, qu'il y a une onction avec l'esprit, mais qu'il y a aussi un scellement par l'esprit de Dieu. Ça, c'est une grande différence. Oints sont beaucoup Et frère Branham a dans la prédication les oints de la fin des temps. Il a clairement parlé de ça. Mais pour nous aujourd'hui, il s'agit de constater où est-ce que le scellement peut avoir lieu. Pas seulement l'onction avec le Saint-Esprit, mais le scellement de ceux qui ont reçu le message dans sa pleine lumière, dans sa pleine révélation, tel que Dieu dans leur âge l'avait accordé et l'ont reçu ainsi dans la foi sans doute. Ça, ce sont ceux-là qui, dans ce dernier âge de l'Église, maintenant, ce sont ceux-là qui seront scellés. Est-ce que cela est clair? Avons-nous tous compris cela? Une différence entre l'onction avec l'Esprit. Et vous savez très exactement, nous avons déjà expliqué ces choses, éclairci ces choses. J'ai déjà, dans l'année 55, alors qu'à peu près 15 ou 16 000 personnes écoutaient Frère Branham en 1955, c'était presque tous des pentecôtistes. Tous parlaient en langue, tous chantaient en langue, tous étaient ouin. Cela semblait comme si le ciel était sur terre. Mais pas longtemps après, il y en a un et un autre prédicateur qui a semé du doute et a dit, mais le don de la révélation des pensées des cœurs, là il y a quelque chose qui ne va pas. Cet homme lit les pensées, cet homme est un médium, est un diseur de bonne aventure. J'ai jamais oublié cela, l'un des prédicateurs les plus populaires, alors qu'il avait exprimé tous ses discours. C'est lui qui parlait de ça et nous étions très proches l'un de l'autre. Mais au moment, à ce moment-là, nous avions été des hommes divisés par Dieu, séparés, divisés par Dieu, séparés. Si quelque chose se passe sur la plateforme par le Saint-Esprit et que cela se passe de manière infaillible et que quelqu'un, par jalousie, parce que les gens ont loué, crié de joie et qu'il avait même peut-être peur que maintenant, avec son ministère, il ne sera plus populaire parmi les pentecôtistes et que là, un homme a apparu que Dieu a beaucoup plus béni que lui. Au lieu de remercier le Seigneur pour cela et de se réjouir, ces frères-là ont laissé naître la jalousie dans leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, ce que Dieu, par l'Esprit, a fait, a été rejeté par ceux qui étaient loin de l'Esprit, a été blasphémé même. Et Jésus, notre Seigneur, disait, « Tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. » Combien existe dans le monde entier qui jusqu'à aujourd'hui encore disent, « Oui, frère Branham était un homme de Dieu puissant, mais son enseignement était faux, etc. etc. » Ça, c'est une contradiction en soi-même. Ou alors, c'est un bon arbre qui porte de bons fruits, ou alors, c'est un mauvais arbre et qui porte des mauvais fruits. On ne peut pas cueillir des figues sur des épines. Jamais auparavant. Jamais, c'est pas possible. Mais vous remarquez que la chose devient sérieuse, pas seulement loin du Saint-Esprit, du vrai Saint-Esprit, pas seulement exercer des dons de l'Esprit et exercer un ministère, mais avoir la révélation de l'Esprit et de la parole, mais suivre la révélation de l'Esprit et de la parole de tout son cœur, dire amen, recevoir, accepter et obéir, se soumettre et reconnaître le message que Dieu a accordé dans toute sa lumière, selon les Écritures, tel qu'il a accordé par sa grâce. Alors là, j'ai directement une question adressée à vous tous. Qui de vous a encore des difficultés avec un enseignement quelconque, une révélation quelconque, avec quoi que ce soit, qui dans toutes les prédications que nous désignons message ont été trouvés par lui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un présent? Alors bon, vous n'avez pas besoin de cette manière de lever les mains. Vous n'avez pas besoin. Mais si c'était le cas, alors je vous donne un bon conseil. S'il y a une chose que vous ne comprenez pas, acceptez-la quand même. Acceptez-la et dites oui Seigneur. Je le crois même si cela ne m'est pas encore clair entièrement. Oui, parce que parfois, nous devons d'abord croire une chose avant qu'elle puisse devenir claire pour nous. Car si nous ne la croyons même pas, comment est-ce qu'elle peut nous être éclaircie? La foi vient d'abord, survient d'abord et ensuite suit l'éclaircissement. Nous avons ici cette parole puissante qui devrait nous réjouir tous, que tous les croyants qui dans les différents âges de l'Église ont cru tout le message dans la lumière dans laquelle il a été apporté, l'ont cru, l'ont accepté, l'ont reçu, ceux-là seront scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Cela me réjouit. Vous pouvez dire amen à cela. Vous pouvez le croire que cela se passera avec nous. Si cela ne s'est pas encore passé, absolument, si cela ne s'est pas encore passé, cela se passera. Ce que Dieu a promis, il le tient. De la même page, dans la même page, courtement après le milieu, nous lisons, ce n'est pas comme certains le pensent que Dieu ne choisit que quelques milliers de personnes de cet âge et les prend à lui. Ce sont les élus de tous les âges. C'est pourquoi le Christ doit rester sur le siège du médiateur jusqu'à ce que le dernier du dernier âge soit entré. Et ça aussi, c'est vrai à 100%. Il reste comme avocat sur le trône de la grâce jusqu'à ce que le dernier dont le nom est écrit dans le livre immolé de l'agneau avant même la fondation du monde, dont le nom est écrit, jusqu'à qu'il soit appelé à sortir, qu'il ait écouté le message et qu'ensuite il ait été scellé. L'heure arrive, le temps arrive dans lequel Dieu scellera. En ce moment, c'est un peu des mouvements à droite et à gauche. On doit encore parler de ceci et parler de cela. Ce n'est pas encore clair pour certaines personnes. Et celui comprend pas. Et celui-là ne comprend pas de la même manière. Celui-là comprend comme ça, ceci. Celui-là, l'autre comprend d'une manière. Il faut que nous ayons tous été enseignés par Dieu, qui est l'union dans l'enseignement, l'union dans la foi. Un en Jésus-Christ. L'unité de la foi. Venu à l'unité de la foi. Et un en Jésus-Christ. Ensuite, il dit déclaration. Les révélations du passé sont ouvertes aux hommes. Et ils réalisent ce qui s'est passé. Vous comprenez maintenant? Pas seulement que nous ayons la grâce de voir ce que Dieu fait dans notre temps maintenant, dans cette heure. Mais nous voyons aussi dans le déroulement des sept âges de l'Église ce que Dieu a fait dans chaque âge. Nous voulons maintenant aller dans le livre à la page 25. De la même manière, à peu près dès le milieu, ici, il est dit la chose suivante. Voilà ce qui vous arrivera si vous parlez différemment que ce que vous pensez. Vous feriez mieux d'arrêter. Dirigez vos pensées sur Dieu. Gardez-les pures. Tenez-vous en droite ligne avec votre façon de penser et parlez de la même manière à tout moment comme vous pensez. Vous comprenez? Pas avoir double parole, mais toujours dire ce qu'on pense. Et si nous le disons, si nous ne voulons pas le dire, donc on n'a pas non plus besoin de le penser. Des choses que nous ne pouvons pas nous les dire les uns les autres. On n'a pas besoin de les penser. Quelque chose que tu ne peux pas dire de toutes les manières à la personne. Donc, pourquoi tu le penses? De toute façon, ça veut dire qu'elles sont vaines et qu'elles ne serviront pas à la bénédiction de ceux qui les écoutent. Donc, nous devons aussi penser plutôt ce que nous pouvons aussi dire. Jugez vos pensées par Dieu. Gardez-les pures. Et si on ne peut pas les dire, c'est parce qu'elles ne sont pas pures. Donc, pourquoi penser? Ça nous souille. Tenez-vous droit dans la ligne de vos pensées et parlez de la même manière que vous pensez. Ne dites pas « je vais dire que je le crois, mais je vais le tester et le découvrir ». Non, croyez-le. Amen. Cela existe aussi. Qui disent « je crois, oui, mais je vais le tester pour découvrir ». C'est juste, la Bible dit « examinez toutes choses et gardez ce qui est bien ». Donc, ça dépend de notre disposition intérieure. S'il y en a qui ont des arrière-pensées en disant cela, qu'ils veulent tester, examiner pour trouver quelque chose, pour trouver une erreur, pour ensuite ne plus avoir besoin de croire. Là commence le problème. Celui qui est sincère devant le Seigneur, il va être conduit par l'Esprit dans toute la vérité. Ensuite, il est écrit ici, concernant ceux qui doivent passer par la tribulation, comment pourrait-il être purifié par la tribulation alors que la blancheur du sang de Jésus-Christ leur enlève tout symptôme de péché? Et si vous êtes déjà mort et que votre vie est cachée avec lui en Dieu et scellé par le Saint-Esprit, pourquoi d'autres devraient vous être jugés? Ça, je me pose aussi cette question. Pourquoi devrions-nous être encore jugés? Pourquoi? Si Dieu a réparé tous les dégâts, absolument, alors nous pouvons que dire, Seigneur, il a tout fait bien. Alors nous dirons bien, mais Seigneur, tu as pris sur toi notre condamnation. Notre condamnation est tombée sur lui. Notre jugement. Nous avons été jugés dans la chair de Christ. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Et il a porté notre condamnation pour que nous ayons la paix. Celui qui ne croit pas, comme le dit les Écritures, il devra mourir dans ses péchés. Mais ensuite, ce n'est pas Dieu qui en est responsable. Alors c'est nous qui en sommes responsables parce que nous n'avons pas cru Dieu. Le témoignage de Dieu. Et si nous ne pouvons pas le croire, nous le rendons menteur. C'est ainsi que la Bible, les Saintes Écritures le disent. Donc, nous ne sommes pas seulement sauvés, mais nous sommes juste purifiés et avons reçu le pardon de nos péchés. Et ici, Frère Branham dit, notre vie est cachée en Christ avec Dieu. Donc en Dieu est caché. C'est comme ça que Paul l'écrit dans Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Et ensuite, suit cette phrase merveilleuse. Quand Christ sera manifesté dans notre vie, alors nous serons aussi manifestés avec lui dans la gloire. Il faut et il va être manifesté dans notre vie. Nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui, et notre vie est cachée avec lui en Dieu. Frère Branham parle déjà ici comme si c'est déjà accompli et dit, donc accompli avec nous, et il dit que vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Pourquoi d'autres devraient-vous être jugés? Où irez-vous encore pour recevoir votre purification? De quoi d'autre avez-vous besoin d'être purifié si vous êtes complètement sans péché en Christ? Ça, c'est l'Évangile. Quand je vois mes amis et frères qui sont à ma droite et assis à votre gauche, quand je les entends prier, alors j'ai l'impression qu'ils ont vraiment déposé leur fardeau. Et j'ai l'impression qu'ils croient et qu'ils peuvent se réjouir sincèrement. Mais quand cela passe à nous, alors nous avons des difficultés à nous réjouir. Peut-être parce que notre mentalité est un peu différente. Mais nous ne voulons pas mettre ça sur le prétexte de la mentalité. Mais mettre ça sur le problème de l'incrédulité. Car Paul dit, même c'est même écrit, la joie, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je répète encore, réjouissez-vous. Et la joie dans le Seigneur est notre force, comme c'est écrit dans Néhémie. Il s'agit pas, je ne veux pas dire par là qu'on doit rire à haute voix, mais une joie profonde, sincère, est aussi déclarée dans la Bible comme l'un des fruits de l'esprit. Vous pouvez le dire dans Galates 5, verset 21. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, tous ces fruits-là. La joie appartient à cela. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Si Dieu aujourd'hui nous accordait un jour de joie, nous chantons, n'est-ce pas? Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et reconnaissants. Et laissons la parole et l'esprit agir en nous. Ceci est le jour. C'est notre jour. C'est le temps. C'est le temps de Dieu. Et son temps est notre temps. Sa parole est notre parole. Aujourd'hui, nous pouvons en fait remercier le Seigneur. Si nous croyons qu'il a ôté tous les dégâts, réparé tout, et que le paradis est de nouveau ouvert pour nous, et que nous y avons accès, ça nous ne l'avons pas lu, mais dans Luc 23, vous pouvez le lire, alors que l'autre invoquait le Seigneur, il a entendu sa voix, lui dire en vérité, je te le dis, aujourd'hui encore, tu seras avec moi au paradis. Ses péchés ont été pardonnés. Il a invoqué le nom de l'Éternel, du Sauveur, du Seigneur, et il a été sauvé, comme c'est écrit, et l'accès au paradis lui a été ouvert. Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il est le chemin, il est la porte, il est la vérité et la vie. Il est tout en tous pour nous et il veut par nous aussi le devenir. Ce jour doit être un jour de joie. Un jour dans lequel nous comprenons que Dieu a fait tout ce qui devait être nécessaire. Il a déjà fait. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour nous sauver et que dans la foi, nous avons seulement besoin de l'accepter tel qu'il a révélé. Et pour le reste, il prendra soin lui-même. Frère Branham, il se pose la question, pour quelle raison est-ce que le jugement devrait être encore nécessaire? Celui qui se juge déjà ne sera pas jugé. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 5, verset 24? Celui qui croit à celui qui m'a envoyé est passé de la mort à la vie et il ne vient plus au jugement. Alors que le Seigneur Jésus voulait ressusciter Lazare et parlait de la résurrection, alors elle a dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'au dernier jour. Aujourd'hui, ici, nous écoutons sa voix. Aujourd'hui, nous devons ressusciter avec lui en nouveauté de vie et marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Il est écrit encore ici, déclaration. Mais c'est l'heure où la révélation est donnée, au moment même où l'époux vient. C'est le résumé des dernières choses. Je crois, mes amis, que tout a une fin. Quand? Je ne le sais pas. Je ne peux pas te le dire, vous le dire. Je veux vivre cette nuit, ce soir, de telle manière que je sois prêt quand, si cela arrivait ce soir. Je veux que ça, c'est très bien et juste et correct. Pas préparer le temps, mais se préparer pour le temps. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Il y en a qui pensent que frère Branham a fixé la fin. Cela n'est pas vrai du tout. Il ne l'a pas fait. Ici, il parle du dernier âge de l'Église. Ça, nous le savons tous. Et il dit, quand est-ce que ça a commencé? Il dit, cela pourrait arriver jusqu'à 77. Mais je pourrais me tromper de 20 ans et de 100 ans. Mais je sais que ça va arriver. C'est tout. Bien sûr, Paul aussi a attendu dans son temps le retour du Seigneur. Il disait même, nous qui vivons, nous serons changés en un clin d'œil. Est-ce que je peux, pour cette raison, le désigner de faux apôtre? Absolument pas. Chaque homme de Dieu, chaque vrai enfant de Dieu attendent le retour du Seigneur dans leur temps. Il y a 400 ans, il y a 300 ans, il y a 200 ans, il y a 100 ans, tous étaient des enfants de Dieu. Et dans leur temps, ils ont attendu le retour du Seigneur. Ils se sont attendus réellement à ça. Vous croyez-vous cela vraiment? Ça, je le crois. Et tous ceux qui, dans leur temps, de leur vivant, n'ont pas attendu le retour du Seigneur, ne le verront pas non plus, ne prendront pas part à ces choses, à l'enlèvement et à la résurrection et tout ça, lors du retour du Christ. Mais ça doit être une espérance vivante en nous. La parole est une réalité divine. Et nous sommes dans une grande attente du retour du Seigneur. Pour nous, c'est réel. Si je décède avant, alors ne dites pas, frère Branham et frère Franck aussi s'est trompé. Non, frère Franck ne s'est pas trompé. Car si avant le retour du Seigneur, je suis repris, alors quand vous serez dans la gloire, vous pourrez entendre mon témoignage que j'ai cru comme il fallait et que je me suis attendu avec droit au retour du Seigneur. Est-ce que nous voulons encore dire cela plus clairement? Ton jour et mon jour, ton heure et mon heure peuvent sonner aujourd'hui. Même si le retour du Seigneur aura lieu, peut durer pour tous, peut se faire attendre pour tous, mais ton heure et mon heure peuvent être déjà aujourd'hui. Si dans ton cœur, tu n'es pas lié avec Dieu, tu n'es pas un avec lui, il n'y aurait pas eu de désir et qu'il n'y a pas de désir envers lui, d'attente à lui, et que tu es repris aujourd'hui. Alors, pose-toi la question toi-même, si tu serais auprès de lui. Cette espérance vivante doit être à nous si elle doit trouver son accomplissement. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut que nous l'ayons entendu. Si ce n'était pas ainsi, alors, à quoi est-ce que nous attendons alors? À quoi est-ce que nous attendons alors? Mais c'était comme ça avec tous les enfants de Dieu dans tous les âges. Ils se sont pas trompés. Le Seigneur les a repris. Ils n'ont pas attendu en vain le retour du Seigneur. Mais ils sont déjà entrés dans le paradis maintenant. Les incroyants comprennent mal, bien sûr, cette chose et disent, oh, regardez, même le frère Branham, ce grand prophète, comme ils le disent, a attendu de son vivant le retour du Seigneur. Et c'était aussi en vain. Je vous demande de m'excuser. Frère Branham n'a pas attendu en vain le retour du Seigneur. Il est maintenant auprès du Seigneur. Il a été repris. De la même manière comme tous ceux qui nous ont précédés. Est-ce que vous comprenez cela tous? De quoi nous parlons? C'est une espérance vivante que tous les vrais croyants portent en eux. Ça, ce n'est ni se tromper ou bien se décevoir. C'est une réalité divine que le Seigneur nous reprenne individuellement ou bien alors qu'il vienne nous reprendre tous ensemble par l'enlèvement. Mais nous serons en tout temps près de lui. C'est ça. Quel essentiel, alors tout sera en ordre. Alors tout est en ordre et tout est vrai. De toute manière, c'est toujours vrai avec Dieu et avec ceux qui croient sa parole. Je voudrais encore rapidement lire ce passage pour que vous puissiez savoir que Frère Branham l'a dit. À la page 26, c'est écrit tout en haut, en allemand. Je lis la deuxième phrase. Je veux vivre cette nuit de telle sorte que je sois prêt si cela arrivait ce soir. Il peut revenir ce soir, mais c'est possible que cela aura lieu dans 20 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Je ne sais pas quand il viendra. Mais ma vie peut se terminer ce soir. Et tout ce que j'ai fait ici sera fini à cette heure-là. Je devrais alors le rencontrer dans le jugement comme j'ai marché ici. Bah, comme un arbre se courbe, il tombera. 2 Corinthiens 5, versets 9 et 10. Donc, il y a encore d'autres citations et déclarations où Frère Branham clarifié les choses qu'il ne s'est pas fixé de temps pour le retour du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous accorder cette grâce et que nous puissions jamais nous fixer à un temps, mais avoir un seul désir dans notre cœur. C'est de quotidiennement être prêt si le Seigneur reviendrait nous prendre, ou bien alors que nous soyons auprès de lui éternellement dans la gloire, ou bien alors qu'il nous reprendrait individuellement. Pas plus que ça est exigé, et lui qui a tout préparé par sa grâce et a dit je vais vous préparer une place et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Beaucoup de milliers ont déjà été repris par lui, complètement à la fin. Ensuite, il reprendra ceux qui sont restés. C'est ainsi que c'est écrit mot à mot. Tous ceux qui sont restés. Oui, pourquoi le mot « rester » Alors tous les autres, ça veut dire, les ont déjà précédés. Mais à la fin, ceux qui sont restés vivants, il veut dire, 1 Thessaloniciens 4, seront changés. Et ensemble, nous irons dans la gloire avec ceux qui ressuscitent. Quelle grâce, quelle espérance vivante. Une vraie parole de Dieu qui devrait nous consoler tous. Que nous ne puissions pas oublier cela. C'est une rédemption parfaite par le rédempteur parfait qui a été accompli, qui a eu lieu par les rédempteurs parfaits, le sauveur parfait. Et le résultat de cette rédemption parfaite est une église parfaite, irréprochable, parfaite, sous le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Tous sont devenus un en Christ, en Dieu, ont reçu une nouvelle vie. Croyez-le aujourd'hui. Et nous voulons ensemble remercier le Seigneur pour cela. Si quelqu'un ne l'a pas encore expérimenté, n'ayez pas honte. Criez le cri de vos âmes et ouvrez vos bouches. Invoquez le nom du Seigneur et vous serez sauvés. C'est toujours encore un message de joie, une bonne nouvelle, un vrai évangile. L'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons été rachetés, sauvés. Dieu a, nous a pardonné, nous a pardonné toutes nos transgressions, toutes nos transgressions. Alléluia, au jeu de Dieu. Tout est en ordre pour nous et avec nous. Loué soit son Saint-Nom. Nous voulons accepter toute sa parole pour ensuite être scellés par l'Esprit qui a révélé la parole. Croyez que cela se passe? Amen. Croyez que cela arrive? Amen. Loué soit notre Dieu. Nous nous levons pour remercier le Seigneur. Faisons-le ensemble, frère Rousse. Je te demande que tu puisses venir et prier. Père Céleste, oh, nous te remercions de nouveau pour cette heure de grâce et particulièrement pour ces paroles de consolation que nous avons, que nous pouvons accepter les uns avec les autres. Seigneur, tu n'as pas parlé en vain. Non, Seigneur, ce que tu as promis, tu le tiendras, tu l'accompliras. Et pour cette raison, nous louons ton Saint-Nom. Seigneur, chacun peut venir à toi. Chacun peut recevoir cette assurance, cette certitude que pour lui, tu as tout accompli sur la croix à Golgotha. Seigneur, c'est ce temps favorable, cette heure dans laquelle nous pouvons venir et t'invoquer, ce jour du salut dans lequel tu nous as secourus. Et nous pouvons te dire, ô Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, établis ta demeure, accorde-nous ta grâce pour que les cœurs s'ouvrent et que les bouches s'ouvrent et que nous puissions te louer, t'exalter comme d'une seule bouche et que nous recevons cette certitude de toi, par toi. Alléluia. Oh Jésus, nous te demandons, accorde-le à ton peuple, à tous ceux qui n'ont pas encore cette certitude. Maintenant, oh Seigneur, fais grâce que chacun fasse une expérience vraie avec toi. Alléluia. Nous regardons à toi, nous te faisons confiance. Nous te louons, nous recevons ta parole. Nous te disons merci. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'adoration de tous nos cœurs et de toutes nos bouches. Gloire, glory, encore ton merveilleux nom de Jésus. Nous te remercions pour ta merveilleuse parole. C'est précieux. Nous t'adorons dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons, ceci est le jour. Ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous voulons être heureux et reconnaissants pour ce jour et expérimenter l'Esprit et la parole. Car ceci est le jour que le Seigneur a fait. Ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. Ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous voulons être heureux et reconnaissants. Nous voulons expérimenter la parole et l'esprit. Car ceci est la parole avec l'esprit. Car ceci est le jour que le Seigneur a fait. Mes bien-aimés, je ne sais pas si nous pouvons jouer à 10 cordes, à une harpe de 10 cordes, mais peut-être que nous pouvons vraiment apporter de notre cœur une louange au Seigneur. Peut-être que ce serait bien si nous pouvions être détachés de nous-mêmes. Comme ça, sortir de nous-mêmes. Être détachés. Hein, n'est-ce pas? Et celui qui a un nœud de papillon ou bien une cravate, ils peuvent la desserrer un peu. Ou bien une cravate la desserrer, oui. Que son nom soit loué. Ceci est le jour, le message de Dieu pour nous, notre temps, notre heure. Des milliards d'hommes ne savent pas ces choses. Et nous avons reçu la grâce d'entendre ces choses. Et de croire à ces choses. Qui veut lever les mains, qui puisse le faire. Celui qui veut même frapper des mains, qui puisse le faire. Celui qui veut crier de joie, qui crie de joie. Celui qui veut pleurer, qui pleure. Il peut avoir même des larmes de reconnaissance. Cela existe aussi. Nous voulons nous fermer nos yeux encore. Que personne ne s'occupe de l'autre. Tous, nous sommes devant la face de Dieu. Chantons dans un recueillement total. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions de notre cœur pour cette heure dans laquelle nous avons la grâce de vivre. Tu as ouvert nos yeux et nos cœurs. Tu nous as ouvert l'intelligence et le sens des Écritures. Ta parole est une parole révélée, une parole vivante. Nous te remercions pour cela. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses te manifester en tant que le ressuscité, en tant que le vivant, en tant que le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Marche et agis, parle et agis parmi nous, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Bien-aimé Sauveur, ta mort a servi à quelque chose. Alléluia! Alléluia! Seigneur, je te remercie pour cela. Que le fruit de l'angoisse de ton âme soit grand. Ô Seigneur, tous les rachetés qui t'appartiennent, nous te louons et nous t'exaltons. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia, je suis racheté par son sang. Sauvé par son sang. Alléluia, alléluia. Je suis sauvé, racheté. Délivré par son sang, affranchi. Alléluia. Comme je suis heureux, le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est beau d'être sauvé. Amen.